Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Juste un petit réglage ici comme ça. Voilà. Bonjour à Natacha, Indirène et la petite famille. Il y avait quelques petits problèmes techniques ce matin, donc si vous voyez mal, si ça coupe, s'il y a un son qui n'est pas bon, simplement m'en aviser, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais pouvoir changer grand-chose, mais faites-moi savoir. Bonjour Lucie. Bonjour à mon père, à ma mère. Good morning, Pastor David. Sunny day today. Bonjour Marie-André, bonjour Farley. Je suppose que Farley est à vos côtés, donc saluez-la de ma part. Donc on est aujourd'hui mardi, le 31 août, dernière journée du mois d'août. On rentre bientôt dans notre dernier quart de l'année. Bonjour Sylvie. Alors, bien content que vous soyez maintenant dans votre nouvel endroit. Je peux imaginer combien un déménagement et pénible. Voilà pourquoi quand on a déménagé où est-ce qu'on est avec Daphné il y a maintenant 10 ans, j'ai dit qu'elle était mieux d'aimer la maison parce que j'étais pas prêt à déménager bientôt. Avant ça, on avait vécu 18 ans dans le même appartement. Mais durant l'enfant, je pense dernièrement, je faisais un calcul et puis on a eu comme 14 ou 15 résidences différentes entre l'âge, enfin, on va dire pour moi, entre l'âge de zéro et l'âge du mariage. Donc les déménagements, je n'aime pas ça. Farley, très content que tu sois là. Sois béni, mon ami. Bonjour à Guy. Bonjour à Raymond. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. On a beaucoup de notions à voir aujourd'hui, donc je vous invite à avoir un crayon et un papier pour bien noter. Bonjour Thérèse, sois bénie. Est-ce que j'ai salué la sœur Susanna? Je ne sais pas. Donc, je salue ou je resalue la sœur Susanna. Bonjour Claude, bonjour à mon ami Marcus, à mon ami Léa, à mon ami Déborah. Les deux premiers doivent être à l'école. Déborah est soit dans les bras de papa ou dans les bras de maman. Et on salue bien entendu maman aussi, maman Derna. Bon matin à la sœur Samek. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Almac MJ, que Dieu vous bénisse. Hello Sylvia, God bless you, bonjour. Oh, je ne suis pas très brillant, Claude. C'est simplement un calcul simple. L'école a recommencé. Et Léa me disait qu'elle était toute fière d'être maintenant rendue à l'école de son frère. Donc, assurément, elle ne pouvait être là aujourd'hui, ni Marcus. Et Déborah, bien qu'elle soit peut-être précoce, elle a encore pour quelques années avant d'être à l'école. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous. Salutations. J'allais dire Lalo, à Eduardo. C'est le premier prénom qui me vient. À l'époque, on l'appelait Lalo. Mais comme c'est un grand monsieur maintenant, on va l'appeler Eduardo. Que Dieu le bénisse. Excusez mon petit retard de réflexion. Déborah s'en va à la garderie demain déjà. Tcha tcha tcha. Mais là, Déborah, à quel âge pour aller à la garderie maintenant? Il y a bien des garderies qui n'acceptent pas, en tout cas. Celle où Daphné travaille, les quatre garderies n'acceptent pas les poupons de moins de 18 mois, je crois. Six mois, c'est pas toutes les garderies qui acceptent les poupons de 6 mois. On a encore 1 minute et on va commencer. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on a bien du stock à partager aujourd'hui. Bonjour à la belle-mère. Alors, on va prier bientôt, mais simplement vous rappeler une ou deux choses. Si vous avez un crayon près de vous, ça va être utile parce qu'on a quand même pas mal de données aujourd'hui à partager. Et de surcroît à cela, on vous rappelle les inscriptions donc pour l'assemblée de dimanche. Ça se remplit graduellement, mais assez rapidement. Donc, ne tardez pas à vous inscrire pour assister à l'assemblée de dimanche en présentiel. Alors, on va prier et après ça, on dévoile la thématique du jour et on lit le texte ou les textes pour aujourd'hui. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cette autre occasion que nous avons d'étudier ta parole, d'être mis au défi par elle, d'être fortifié, d'être éduqué, d'être enseigné par elle. Merci Seigneur parce que tu as pourvu ces moyens technologiques depuis maintenant plus de 18 mois à travers lesquels Seigneur on partage ta parole jour après jour et après lesquels avec lesquels Seigneur on se nourrit et on s'abreuve durant cette semaine encore une fois. Alors bienvenue à ton esprit parmi nous, bienvenue à ta direction parmi nous, bienvenue Seigneur à ton inspiration et à ton onction parmi nous. Nous nous plaçons face à ta parole comme en ayant grand besoin et en proclamant que celle-ci est la vérité, l'absolue vérité pour nous tous. Nous te demandons Seigneur tout simplement d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre entendement, et de nous permettre, Seigneur, de profiter pleinement de ces quelques instants que nous passons les uns avec les autres, mais surtout, Seigneur, avec toi, en ta présence, les yeux rivés dans ta parole. Alors, en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le plus merveilleux et le plus glorieux des noms, le nom de Jésus. Amen. Alors, on continue aujourd'hui, bien sûr, bienvenue à tous à cette autre édition des bénédictions matinales. Comme vous savez, tout au long du mois d'août, et on va continuer encore pour quelques jours, même si le mois de septembre démarre demain matin. Mais tout au long du mois d'août, on a vu, lors de nos bénédictions matinales, donc lors de nos études du lundi au vendredi, on a étudié différents symboles que la Bible nous donne au sujet de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre les symboles que représentent les métaux précieux. J'en ai sorti deux en particulier, les deux plus communs, mais à l'occasion, la parole nous parle notamment d'être de la parole et de la sagesse qui est une perle. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à l'argent et à l'or, et même on va aller au-delà de l'or en soi. Donc le premier verset, tout simple, dans Psaume au chapitre 12, le verset 6, tout simplement pour illustrer comme quoi la Bible ou la parole de Dieu est souvent comparée à l'argent. Donc Psaume 12, le verset 6 nous dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré. Je répète, les paroles de l'Éternel sont pures, sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré. Alors la première chose qu'on voit, c'est que si on devait comparer la parole de Dieu à de l'argent, donc pas l'argent, les billets de banque, mais l'argent, la pierre précieuse ou le métaux précieux, on parlerait d'un argent qui est éprouvé au creuset, qui est mis au feu, qui est fondu, duquel on retire les scories, les impuretés, et on ferait ce processus 7 fois. Et on sait que le chiffre 7, symboliquement dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Donc on épurerait l'argent 7 fois, et ce qui en serait le produit réduit ou résiduel serait de l'argent de grande, 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 grande valeur, un argent d'une pureté exceptionnelle, et on parle de la parole de Dieu comme cet argent qui a été éprouvé 7 fois et qui est pur, sans aucune tache, sans aucune anicroche, sans aucun scorie qui reste. Dans le psaume 119, le verset 127, on nous parle cette fois-ci de l'or. David va dire, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. D'ici, je devais mettre ta parole, tes commandements, sur une balance versus de l'or et de l'or fin, même pour voir quelle serait ma priorité. Ce que j'aime davantage que l'or et l'or fin, ce serait tes commandements. Le verset important pour nous aujourd'hui, ou le passage important pour nous aujourd'hui, c'est dans le psaume 19, du verset 7 à 11. Dans certaines Bibles, ça va être du verset 8 au verset 12, dépendamment comment on découpe le tout premier verset. En règle générale, dans la Bible Louis II, qui est celle qui est utilisée dans la plupart des églises évangéliques, donc on va être au verset 7. Voilà pourquoi dans la nomenclature ou dans l'explication du jour, j'ai parlé du verset 7 au verset 11 et non pas du verset 8 au verset 12. Je lis la parole pour vous. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend l'ignorant sage. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. On a déjà étudié le verset 10 lorsqu'on a parlé du miel. On disait, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et on disait à ce moment-là que c'était un miel qui était frais, qui était constamment actuel, qui ne vieillissait pas jusqu'à cristalliser et à être dépassé, mais c'était tout le temps un miel qui coulait des rayons constamment, donc qui gardait sa fraîcheur peu importe le temps. Et si on comparait la Bible ou la parole de Dieu à du miel, c'était que cette parole reste encore tout à fait actuelle, tout à fait appropriée et tout à fait fraîche pour la vie de qui la reçoit. L'exercice que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de prendre l'ensemble de ces versets, du verset 7 au verset 11, et de faire ressortir certains synonymes de la parole de Dieu. Bien entendu, le psalmiste va nous dire que ces symboles, que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or et que beaucoup d'or fin. Donc, un peu comme dans la pensée de l'argent, la parole de Dieu est comparée à de l'or et à de l'or fin, donc de l'or qui aura été épuré énormément, duquel on aura sorti les scories. Les scories, c'est un terme qu'on utilise pour parler des imperfections, des impuretés qu'on retrouve dans le métal que représente l'or à son format brut. Et plus on le fait brûler, chauffer, il fond. Et les scories, les impuretés, se séparent de l'or. Donc, le processus peut être recommencé à plusieurs reprises. Pour l'argent, David disait qu'on allait le faire 7 fois, puisque 7 est le chiffre de la perfection dans la symbolique biblique. À ce moment-là, on pouvait effectivement prendre de l'or et chauffer l'or 7 fois. Et à chaque chauffe de l'or, il y avait de nouveaux scories qu'on pouvait détecter, retirer. Et on aboutissait avec un or ou avec un argent qui était, oui, très malléable, qui était très souple, voire même fragile. On pouvait, simplement avec les doigts, le déformer. Mais c'était un or qui était près de la perfection. Chose certaine, la parole de Dieu, elle est parfaite. Elle n'est pas proche de la perfection, elle est totalement parfaite. Et dans ce passage-ci, on va avoir des synonymes pour la parole de Dieu. On va nous parler de la loi, on va nous parler du témoignage, on va nous parler des ordonnances, on va nous parler des commandements, on va nous parler de la crainte, on va nous parler des jugements et on va nous parler des instructions. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mots, si je ne m'abuse, qu'on va étudier ce matin, tout simplement pour illustrer la diversité de ce que la parole de Dieu nous amène, la diversité de cette provision divine que représente la parole de Dieu. Donc, au verset 7, on nous en donne 2. On nous dit au verset 7, pour ceux qui se joignent à nous, c'est dans le psaume 19, le verset 7. Comme je disais au début, dans certaines versions, ça va être le verset 7. Dans d'autres, ça va être le verset 8, tout dépendant de la découpe qu'on a fait du verset 1. Donc, le verset 7, dans la plupart des Bibles qui sont les nôtres jusqu'à présent, la Bible nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc, le premier terme, la loi. Une des choses avec lesquelles on illustre la parole de Dieu, ou une des choses qui parfois est un synonyme du terme parole de Dieu, ça va être la loi. La loi est un terme qu'on a déjà étudié à quelques reprises dans les 18 derniers mois. C'est le terme hébreu Torah, Torah, duquel on a tiré un terme plus francophone qu'on appelle la Torah. Donc la Torah, T-O-W-R-A-H. T-O-W-R-A-H. Donc la Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Lorsqu'on parle de la Torah, on parle des directions et des instructions que Dieu donnait à son peuple. C'était l'ensemble des enseignements qui donnait un objectif et qui donnait une conduite à suivre à son peuple. Donc, direction et instruction. Dans la Bible, le mot important alors que j'aimerais que vous notiez, lorsqu'on parle de la loi ou du Torah, on va parler de l'orientation que Dieu désire donner à ses enfants. La Bible est effectivement ce manuel de l'utilisateur, ce manuel de la vie qui nous oriente vers Dieu. Il n'y a pas un autre livre qui nous oriente vers Dieu. Les autres sont créés par des hommes, les autres sont issus de la pensée des hommes, voire de la pensée du diable, et vont finalement nous éloigner de Dieu. Le seul livre que nous considérons comme saint, le seul livre que nous considérons comme étant parole de Dieu, c'est donc la Bible, et en cela, elle nous donne l'orientation. Elle dit, voici comment l'homme peut s'approcher de Dieu. Donc, la parole de Dieu est pour nous, dans la diversité d'expressions qu'elle peut avoir, elle est pour nous ce guide qui nous oriente vers Dieu. La deuxième chose, on nous dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le témoignage, c'est le terme EDUWTH. Je répète, EDUWTH. Encore là, c'est pour tous ceux qui prennent des notes. Le EDUT de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Ce mot-là, EDUT, sans le savoir, vous allez régulièrement l'utiliser lorsqu'on parle d'un objet tout particulier dans le culte à l'Éternel, dans le tabernacle et dans le temple. Lorsqu'on parle de l'Arche de l'Alliance, vous savez, cette espèce de boîte que simplement les sacrificateurs pouvaient, les Lévites pouvaient transporter, et si un non-Lévite touchait un non-lévite ou un non-sacrificateur touchait l'Arche de l'Alliance, il en mourait instantanément. Donc, cette Arche de l'Alliance aussi sur laquelle la puissance de Dieu descendait périodiquement comme un symbole de sa présence. Parfois, on va l'utiliser ou on va l'appeler l'Arche de l'Alliance, donc l'Arche du pacte avec Dieu. Et dans certains cas, on va l'utiliser ou on va la mentionner en parlant d'elle de l'Arche du témoignage. L'Arche de l'Alliance et l'Arche du témoignage, c'est exactement la même chose. Ce ne sont pas deux objets différents, c'est exactement la même chose. Et ce qu'il y avait de particulier par rapport à l'Arche de l'Alliance, c'est que l'Arche de l'Alliance était la manifestation ou était la chose avec laquelle on associait la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Cet objet sur lequel, une fois par année, dans le lieu très saint, la gloire toute puissante de Dieu descendait, ce feu descendait et descendait sur l'Arche de l'Alliance. C'était une manifestation de la toute présence et de la toute puissance de Dieu. Donc, dans la Bible, lorsqu'on compare la parole de Dieu à cette Arche du témoignage, lorsqu'on parle du témoignage de l'Éternel, ici, on parle non seulement de l'Alliance et du pacte que Dieu va signer avec l'humanité, que Dieu a envers l'humanité, mais on parle aussi de la révélation de l'identité même de Dieu. Dans ce pacte qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible, avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, en créole, la Bible est divisé en deux pactes. Au lieu de parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on va parler de l'Ancien Pacte, du Nouveau Pacte, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance dans les Bibles en créole. C'est comme ça qu'on va présenter l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de Dieu qui se présente avec deux pactes, lorsqu'on parle de Dieu qui se révèle dans sa toute-puissance sur l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage, on est en train de dire que Dieu se révèle. Et la parole de Dieu, effectivement, est ce livre qui nous révèle la pensée de Dieu, et ce livre qui nous révèle qui est Dieu, ce livre qui nous révèle comment Dieu s'est manifesté envers l'humanité, comment il a créé l'humanité, comment il désire aussi fonctionner avec l'humanité, comment il désire sauver l'humanité et ce qu'il a fait pour sauver l'humanité. Donc, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle aussi de ce livre, de ce manuel qui nous apprend le témoignage de Dieu ou qui nous donne la révélation de l'identité de Dieu. Donc, le verset 7, la loi, Torah, donc qui nous donne les directions et les instructions, voire l'orientation que Dieu veut donner aux croyants et à l'homme. Et dans ce deuxième point, toujours dans ce verset 7, le témoignage, donc l'alliance, le pacte et la révélation de l'identité même de Dieu. Au verset 8 maintenant, on nous dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Alors ici, deux termes, ordonnance, pikud, donc pikud c'est P-I-Q-Q-U-W-2-D, donc je répète, pikud, P-I-Q-Q-U-W-D, et commandement, mitzvah, M-I-T-S-V-A-H, je répète, commandement, mitzvah, M-I-T-S-V-A-H. Donc, retournons à ordonnance. Les ordonnances, les picoudes de l'Éternel, sont droites et réjouissent le cœur. Lorsqu'on parle des ordonnances de Dieu, on parle de ses préceptes, de ses statuts, de ce qu'il a établi ou de l'ordre qu'il a donné aux choses. On ne parle pas encore des commandements, on va y aller tout à l'heure. Ici, on parle de comment Dieu a ordonné les choses, comment il a disposé les choses dans l'univers, comment il a disposé les choses dans sa relation avec l'homme, comment l'homme peut franchir des étapes pour s'approcher de Dieu. Quelles sont ces étapes que Dieu a établies? Quelles sont les normes qu'il a établies dans cette relation entre lui et les hommes. La Bible va dire dans l'Ancien Testament qu'on ne peut pas s'approcher de lui si nos mains sont impures, si nos lèvres sont impures, si notre cœur n'a pas été purifié, si nos pensées sont mauvaises, qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Donc, il nous dit, à cause de l'impureté, vous ne pouvez pas vous approcher. Le seul moyen de s'approcher, et là on arrive avec Jésus qui vient sur cette terre, qui est offert comme agneau de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui se fait homme et qui offre cette vie physique, cette vie humaine qui l'habite, en mourant à la croix et en ressuscitant le troisième jour. Il rétablit pour l'homme ce moyen de se connecter à Dieu, ce moyen d'être enfin pur et de pouvoir s'approcher de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des ordonnances de Dieu, on parle des préceptes, des statuts et de l'ordre qu'il a donné aux choses. Comment Dieu fonctionne? Comment l'homme devrait fonctionner dans sa relation avec Dieu? Et ici, on va parler donc de la sagesse. Le livre de Proverbes est le livre par excellence de la sagesse. L'Ecclésiaste de surcroît aussi à cela. Ce sont des livres écrits par, bien sûr, le roi Salomon, le fils de David, qu'on a dit comme étant l'homme le plus sage qui a vu le jour sur cette terre. Et dans ces livres, on va nous parler comment nous accaparer ou nous faire nôtre la sagesse, comment s'approcher de la sagesse, comment user de sagesse, comment vivre avec sagesse et comment être près de Dieu et approuvé par Dieu en vivant selon les préceptes, les saluts, le statut plutôt, et l'ordre que Dieu a donné aux choses. Donc lorsqu'on parle d'ordonnance, on parle donc de sagesse. Il va nous parler par la suite, toujours dans ce verset 8, des commandements. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. À ce moment-là, la parole de Dieu, lorsqu'elle est représentée par les commandements, ou lorsqu'on adresse la parole de Dieu avec le terme commandement, on va nous parler effectivement des exigences de Dieu. Voici ce que je demande. Voici ce que je veux que vous pratiquiez. Voici ce que j'accepte. Voici ce que je condamne. Voici mon code civil. Voici ma législature dans mes opérations avec l'homme. Donc ici, on nous dit que les commandements, le mitzvah de l'Éternel, sont purs. Ils éclairent les yeux. Ils nous permettent de voir ce que Dieu bénit comme ce que Dieu maudit et ce que Dieu exige de l'homme. Si on n'y allait que par notre propre pensée, à ce moment-là, on dirait, voici comment l'homme devrait être sauvé. Il y en a plein qui ont sorti des théories là-dessus, en disant, l'homme devrait faire beaucoup d'efforts, vivre une vie astringente, vivre une vie monastique et faire preuve d'ascétisme, donc d'une souffrance spiritualisée pour être en accord avec Dieu ou pour être approuvé de Dieu, et voici comment il serait sauvé. La Bible nous dit, voici ce que je commande, voici ce que j'exige. Nul ne peut être sauvé s'il ne passe par Jésus. Nul ne peut être sauvé s'il ne passe par la croix. Et là, ce sont des exigences de Dieu. Donc la parole de Dieu, la Bible, nous parle aussi non seulement des ordonnances, de la sagesse qui émane de Dieu, mais nous parle aussi des exigences que Dieu a envers toi et envers moi. Et moi, en tant que créature de Dieu, moi, en tant que serviteur de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois vivre et je dois connaître ce que Dieu exige. Pour être approuvé de quelqu'un, je dois aussi remplir les exigences de cette personne. Lorsque quelqu'un veut se présenter aux élections, il doit remplir certaines exigences. Lorsque quelqu'un veut s'inscrire dans une école ou dans une université, il doit remplir des exigences. Lorsque quelqu'un veut prétendre à un travail, il y a des exigences qui sont liées à ce travail. Lorsque nous désirons être enfants de Dieu, lorsque nous désirons prétendre au salut offert par Christ à travers sa mort et sa résurrection, nous devons aussi remplir les exigences qui vont avec. Confesser Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Celui qui confessera que Jésus est Seigneur sera sauvé. Il y a des exigences comme ça que Dieu a établies. Et la Bible nous parle de ses commandements, de ses exigences qui nous sont révélées à travers notre étude de la parole de Dieu. Lorsqu'on va au verset 9, pour ceux qui se joignent à nous, c'est dans le psaume 19, le verset 9 nous dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Ici, lorsqu'on lit ce verset-là, tout d'abord avec le premier terme, « La crainte de l'Éternel », on pourrait penser effectivement à ce grand respect, à cette grande révérence qu'on doit avoir envers Dieu. Il y a toujours ce dilemme en français d'associer la crainte avec la peur, et ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle de crainte dans la Bible, on parle essentiellement d'une révérence absolue, d'un respect profond qu'on doit avoir envers Dieu. Mais de surcroît à ça, le terme crainte, qui est le terme yirach, donc Y-I-R-A-H, je répète, la crainte yirach, Y-I-R-A-H, va nous parler non seulement de ce respect, de cette révérence qu'on doit vouer à Dieu, mais aussi de la piété qu'on doit faire, de laquelle on doit faire preuve dans notre culte à Dieu. Alors, le synonyme de crainte ici serait les directives du culte. Donc, Dieu non seulement nous dit comment vivre, mais Dieu nous dit aussi comment le célébrer. Ce n'est pas naturel pour l'homme pécheur, de nature pécheresse que nous sommes à cause de la faute d'Adam et Ève et notre condition qui en a été pour toujours altérée jusqu'à ce qu'on vienne à Christ, bien entendu. Donc, notre nature pécheresse ne sait pas comment s'approcher de Dieu, ne sait pas comment célébrer Dieu. Et soyons très, très clairs, si les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses propres disciples. Là, on parle des disciples de Jésus, des disciples qui sont aux pieds, qui servent, qui étudient, qui reçoivent les paroles de Jésus, Dieu fait homme. Et eux-mêmes sont en train de dire, apprends-nous à prier. Donc la prière n'est pas une chose naturelle. Le culte qu'on rend à Dieu n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on développe. Et la parole de Dieu nous sert aussi, dans le terme crainte, yirach, va nous parler aussi de comment on rend un culte à Dieu qui lui est agréable. Assurément, nous tous, on veut prier et avoir des résultats. Dans le Nouveau Testament, on va nous dire, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous priez pour satisfaire vos propres passions. Donc ici, l'auteur est en train de dire, ben, il y a une façon de prier pour que Dieu réponde. Il y a une façon de prier pour que Dieu approuve. Il y a une façon de s'approcher de Dieu dans le culte pour que ce culte-là lui soit agréable. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va mentionner comment les choses doivent être faites dans l'Église, comment lorsque quelqu'un officie, les autres doivent laisser la place, comment même celui qui prophétiserait au nom de Dieu doit aussi se soumettre à la façon ou à la procédure du culte. Donc, il y a une façon de s'approcher de Dieu, il y a une façon de rendre un culte à Dieu qui lui est agréable, et c'est ici ce que le terme crainte va vouloir éclairer ou mentionner. L'autre, on parle des jugements. On nous dit que les jugements de l'Éternel sont vrais et qu'ils sont justes. Un terme qui ressemble à mitzvah, mais ce n'est pas mitzvah, c'est mishpat, mishpat, jugement, M-I-S-H-P-A-T, mishpat, M-I-S-H-P-A-T, qui veut nous dire des décisions, des verdicts, des sentences qui nous parlent de procès, qui nous parlent de cause, mais de cause dans le sens, on présente une cause à la cour. Donc, un débat légal qui est fait et qui est conclu par le juge avec soit une bénédiction, soit une condamnation. Et ici, on parle davantage de ce que Dieu condamne. Donc, une décision, un verdict, une sentence, une condamnation. Et oui, la Bible nous dit ce que Dieu condamne. Par conséquent, on sait quoi ne pas faire et quoi faire. Si Dieu ne nous révèle pas ce qu'il a en horreur, ben on pourrait, à notre insu, ou par ignorance, faire ce que Dieu condamne. Mais puisque cette chose nous est révélée, on sait non seulement comment ne pas offenser Dieu, mais on sait aussi quoi faire pour honorer Dieu. Donc il est important, oui, de connaître aussi les jugements de Dieu et de connaître ce que Dieu sentence ou ce que Dieu condamne dans la vie et dans l'attitude et dans le comportement et dans les paroles et dans la façon de vivre d'un homme. Donc Dieu n'approuve pas tout. Il y a des choses qu'il condamne très clairement. Et ces choses qu'il condamne, on ne peut pas, à cause du temps, à cause de la modernité de l'époque dans laquelle on peut être, dire « Ah, mais ça, c'était vieux jeu, ça, c'était il y a 2000 ans. » Ces jugements, ce que Dieu condamne, a toujours été condamné de toute éternité et sera toujours condamné pour toute éternité. Sinon, sa justice serait... faillible, sa justice serait injuste. Ça se dit mal, mais on le dit malgré tout, sa justice serait injuste parce que certaines personnes auraient bénéficié d'une grâce à une certaine époque, pendant un certain temps, alors que d'autres auraient été condamnés pour la même offense, pour le même crime, mais ils sont tombés dans la mauvaise époque où Dieu, à ce moment-là, condamnait la chose. Les jugements de Dieu, les décisions de Dieu, les verdicts de Dieu, les sentences de Dieu par rapport au comportement de l'homme, par rapport aux agissements de l'homme, par rapport au mode de vie de l'homme, n'ont pas changé. Et apprendre la parole de Dieu nous permet aussi de connaître ce que Dieu approuve de ce que Dieu condamne. Dernier point aujourd'hui, donc le verset 10 nous dit, tout cela c'est plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et le verset 11, et ça on aurait pu passer outre ce terme, mais il est important, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, les instructions, la récompense est grande. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Le terme instruction, qui est le terme zahar, 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 donc instruction, zahar, Zahar, qui nous parle des avertissements et qui nous parle de l'éclaircissement. Dans le terme Zahar, il y a vraiment cette image d'une lumière qu'on allume et qui se met à irradier la place par une lueur et qui chasse les ténèbres. Donc, dans la parole de Dieu, il y a cette faculté Zahar, d'instruction, qui nous sert d'avertissement, qui fait partir les ténèbres autour de nous, qui chasse la confusion, qui nous éclaire. Et ainsi, on parle donc des enseignements qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a effectivement ces enseignements, ces instructions que Dieu nous donne, cet apprentissage qu'on en fait sur comment être, sur comment faire, sur ce que Dieu attend. Donc, il y a des enseignements que Dieu nous donne. Pourquoi il aime telle chose? Pourquoi il n'aime pas telle chose? Pourquoi il réprimande telle chose? Pourquoi il ne réprimande pas telle autre chose? Qu'est-ce que Dieu approuve? Qu'est-ce que Dieu désapprouve? Comment mener à bien un ministère? Comment bien fonctionner dans l'Église? Comment avoir une bonne relation avec nos frères et nos sœurs? Comment agir avec les gens de l'extérieur, tels que la Bible nous mentionne, ou les gens qui ne sont pas encore venus à Christ, comment les gagner, comment s'approcher d'eux. Paul qui va dire, avec les Grecs, je me suis fait grec, avec les Juifs, je me suis fait juif. Ici, on ne parle pas d'un jugement, on ne parle pas d'une orientation, on parle d'une instruction que Dieu est en train de nous donner en disant, faites-vous tout à tous pour en gagner au moins quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu 7 points importants. On a vu tout d'abord que la parole de Dieu renferme la Torah, la loi, donc où on reçoit orientation de la part de Dieu, orientation pour l'homme et pour notre personne bien spécifique aussi. On parle aussi du témoignage, le Edout de l'Éternel, qui est la révélation non seulement de son alliance et de son pacte avec l'homme, avec le croyant, mais aussi une révélation profonde de l'identité de Dieu. On nous parle des ordonnances de Dieu, des pikoud, qui sont les préceptes, les statuts, l'ordre qui est donné à chaque chose dans l'univers et dans la vie. Et on nous parle ainsi de la sagesse de Dieu. On nous parle par la suite des commandements, les mitzvahs de l'Éternel, les commandements, les exigences, ce que Dieu requiert de toi, de moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il exige de toi et de moi. On parle par la suite de la crainte, le yirar, qui nous parle donc du respect, de la révérence, de la piété et du culte qu'on rend à Dieu. Comment s'approcher de lui? Comment le prier? Comment l'adorer? Comment l'honorer? Comment le célébrer? On nous parle des jugements, le mishpat, donc les décisions, les verdicts, les sentences que Dieu a rendues, les condamnations qui l'a rendu sur certaines pratiques, sur certaines paroles, sur certaines attitudes, sur certaines façons de fonctionner, comment Dieu condamne certaines choses. Et enfin, les instructions, le Zahar, qui nous parle d'avertissement, d'éclaircissement et d'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Que la parole est vaste et qu'à travers cette parole, si vaste soit-elle, on apprend à découvrir Dieu et on apprend à se positionner par rapport à lui. Voilà pourquoi il est important de remettre la parole de Dieu comme priorité de notre existence. Si Dieu, tu affirmes qu'il est la priorité de ta vie, sa parole, l'étude de sa parole, la méditation de sa parole, l'apprentissage de sa parole doit être aussi en priorité sur ton existence. Alors prions. Seigneur, effectivement, tu es comme ta parole est comme une diversité de métaux précieux, de l'or, de l'argent, des perles, des joyaux qui ont été purifiés, affinés, poussés dans une qualité exceptionnelle et excellente. Alors merci Seigneur pour tout ce que ta parole nous enseigne, pour tout ce que ta parole nous révèle. C'est à travers ta parole qu'on sait comment s'approcher de toi, qu'on sait comment agir avec toi, qu'on sait aussi ce que tu demandes de nous, ce que tu veux approuver, ce que tu peux bénir et ce que tu vas maudire. C'est à travers cette parole, Seigneur, que nous apprenons à nous positionner afin effectivement d'être sous ta grâce, sous ton approbation et sous ta bénédiction. Alors je prie, Seigneur, que cet enseignement aujourd'hui nous pousse à tous et chacun à vouloir encore te connaître davantage, à apprendre encore davantage de toi, à ne laisser tomber aucune de tes paroles, sachant que toutes ces paroles servent à notre éducation, servent à notre formation et servent à notre croissance devant toi et assurément servent à notre bénédiction. Alors je bénis ma sœur ce matin, je bénis mon frère, merci Seigneur de leur parler, merci de les enseigner, merci de te révéler à eux. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et majestueux nom qui est le tien, le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement vous rappeler de vous inscrire pour l'assemblée de dimanche en présentiel. Donc vous nous écrivez sur courriel, par courriel, exclusivement par courriel. Ce n'est pas par Facebook, ce n'est pas par Messenger. C'est vraiment par courriel, vous nous écrivez ou vous nous appelez et vous nous donnez votre nom et le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. La seule restriction, ou les deux seules restrictions, c'est d'être âgé de plus de 6 ans, d'une part, parce que en bas de 6 ans, c'est difficile de respecter la distanciation sociale qu'on impose. Donc 6 ans et plus peuvent s'inscrire et de surcroît à ça, ne présenter aucun signe grippal. Qui reste encore aujourd'hui un baromètre par rapport à cette pandémie. Donc, si vous voulez assister à l'assemblée de dimanche, soit vous écrivez par courriel à l'église ou vous appelez au numéro du secrétariat et vous laissez votre nom et le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée dans la diversité de ces métaux précieux que sont les différentes facettes de la parole de Dieu. Bonne journée à tous et on se retrouve demain matin pour continuer notre étude sur la parole. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.